Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Santé et logiciel libre, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam, et aussi la Pituite de Luc. Voici le programme de l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause Commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et sur internet, c'est 24h sur 24. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile, et la radio diffuse désormais en DAB+, 24h sur 24. Le DAB+, c'est la radio numérique terrestre avec notamment meilleur son, et c'est le terme officiel choisi par le CSA. Pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAB+. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi bien sûr des points d'amélioration. Nous sommes le 29 septembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella, salut Isa.
Salut.
Et si vous souhaitez réagir pour poser une question pendant le direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous donc sur le salon libre à vous, voilà, dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 01 77 62 75 04, le numéro, trouvez le numéro sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors avant de vous présenter le programme de cette émission, je vais vous faire une petite confidence, je suis un sacré trac. Ce n'est pas la première fois que j'anime Libre à vous, mais c'est la première fois que je le fais depuis le studio de Cause Commune. J'ai le trac, mais je suis surtout très content et excité de pouvoir faire, d'avoir cette expérience, et puis de la partager avec nos super auditrices et auditeurs de Libre à vous, et donc avec un programme qui je l'espère, vous intéressera, mais j'en doute pas. Donc ce programme, quel est-il? Alors nous commencerons donc par, comme je l'ai annoncé, par la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam, intitulée « Maître et serviteur ». Et si j'ai bien compris, il s'agira d'une réflexion critique sur le jargon informatique. Nous enchaînerons donc ensuite avec notre sujet principal, sur le logiciel libre et la santé. Pour cela, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Adrien Parot, Pierre-Yves Dillard et Philippe Montargès. Et l'incroyable Luc nous expliquera en fin d'émission que « digital » rime avec « médiéval ». Et nous finirons par quelques annonces. Alors avant de commencer cette émission, nous allons faire un petit quiz. Je vous donnerai la réponse en fin d'émission. Vous nous proposez vos réponses sur le salon web de la radio, accessible comme je vous le disais via le site web causecommune.fm, bouton de chat. Vous pouvez également nous répondre via les réseaux sociaux sur les comptes april.org sur Twitter et @april@poet.april.org sur Mastodon. Voilà, l'instance étant april.org où est hébergé le compte de l'April. Cette question, quelle est-il? Eh bien, le 18 janvier 2020, dans le Libre à vous numéro 51, nous avions fait un sujet qui est directement lié à celui du jour. Nous avons parlé du Health Data Hub, une plateforme de recherche sur les données de santé. D'ailleurs, nous en reparlerons sans doute tout à l'heure. À l'époque, un des points de tension autour de cette plateforme portait sur un accord entre l'Europe et les États-Unis sur l'encadrement du traitement des données personnelles. Un accord qui a récemment été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Quel est le nom de cet accord? Petit indice, il fut le sujet d'une chronique la semaine dernière. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Vincent Calam. Donc, bonjour Vincent. Et je dois dire que je suis ravi que pour la première critique que je vais animer depuis ce studio, ce soit la tienne, de le faire donc avec toi. Et que tu nous fasses le plaisir d'être avec nous, masqué bien sûr.
Bien sûr.
Et donc, si j'ai bien compris, comme je disais, derrière ce mystérieux titre « Maître et serviteur », tu vas nous parler jargon informatique.
Oui, bonjour Étienne, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans l'informatique, nous avons l'habitude d'être dans un monde à part, hein, avec notre jargon, nos préoccupations, nos enjeux. Et bien sûr, bon, nous essayons de les partager, ces enjeux, avec le plus grand nombre, comme ici même sur cette antenne, mais même si on a parfois l'impression de se heurter à un mur d'incompréhension. Alors, en fait, quand à l'inverse, certains débats qui déchirent la société s'immiscent dans l'informatique, ça fait bizarre de voir tout d'un coup sa bulle éclater et se retrouver dans le fracas du monde. Alors, je vais prendre comme sujet de ma chronique, justement, un débat en cours sur la question de la pensée décoloniale et qui a été illustré médiatiquement par le déboulonnage de statues de personnages controversés cet été. à Bristol notamment, mais aussi en France avec les statuts de Colbert. Pourquoi ce sujet-là ? Parce que plusieurs projets de logiciels libres ont déclaré bannir de leur code l'utilisation de l'expression « maître-esclave ». Le dernier en date de ces projets étant Mozilla Firefox, ces termes étant, donc je cite la déclaration de Firefox, identifiés comme étant péjoratifs ou excluants.
Donc si on fait abstraction de ce à quoi peuvent effectivement renvoyer ces termes, que désigne cette expression « maître-esclave » en informatique, maître et esclave ?
Alors, en informatique, ça signifie une relation de dépendance. Par exemple, on parle d'une base de données esclave quand elle est la copie synchronisée d'une autre base de données qui est la base de données maître. Dans le cas de Firefox, c'était utilisé en particulier pour distinguer le mot de passe principal des autres mots de passe. Si jamais en Firefox, vous avez vos messages enregistrés, vous pouvez mettre un message principal qui va ouvrir la porte aux autres. Donc, en fait, on dit comme ça, hein, c'est rien de bien méchant et on ne peut pas dire que ça fasse l'apologie de l'esclavagisme. Et c'est vrai que souvent, quand on a ce type de sujet tombe, la première réaction, c'est de trouver qu'on en fait un peu trop sur la question, qu'on cherche la petite bête. Mais bon, voilà, comme je ne suis pas chroniqueur sur CNews ou éditorialiste à valeur actuelle, je ne vais pas partir ici, je vous rassure, dans une diatribe sur les méfaits du politiquement correct. Donc, comme nous sommes dans l'émission Libre à vous sur la radio Cause Commune, et comme nous pensons que l'informatique n'est pas seulement un objet technique et que le logiciel libre est un projet éminemment politique, qui n'est pas hors du monde, j'ai trouvé intéressant de pousser un peu plus loin la réflexion sur cette question maître-esclave. Parce qu'il se trouve que dans mon propre code, j'utilise les mots anglais « master » et « slave », donc qui correspondent à « maître-esclave », et franchement, bon, c'est vraiment pas un choix conscient de ma part. J'ai suivi ce qui me semblait l'usage en informatique, hein, c'est répandu, pour que mon code soit le plus lisible possible par d'autres informaticiens. En revanche, suite à ce sujet, ce que j'ai trouvé très insignificatif, c'est que j'utilise jamais le mot esclave dans ma propre documentation en français, ou que ce soit également dans l'interface. Et ça depuis toujours, bien avant la polémique, et là aussi sans que ce soit un choix conscient de ma part. Et je crois que c'est une preuve que, pour moi aussi, qui suis un homme blanc de 47 ans, donc ni racialisé, ni issu de minorité, pour reprendre les termes actuels de ce débat. Donc pour moi aussi, le mot esclave avait une charge évocatrice très forte et qu'il n'avait pas du tout sa place dans la description d'un logiciel.
Donc tu ne serais plus partisan d'employer cette expression ?
En fait, oui. Je suis d'accord avec cette position et j'irais même plus loin. En informatique ou dans tout autre domaine technique, c'est naturel de puiser dans d'autres champs sémantiques des termes pour désigner les concepts que l'on manipule. Un seul exemple, client-serveur, pour désigner un ordinateur qui reçoit des informations, le client, et puis l'ordinateur qui lui fournit l'information, le serveur. Donc ça vient directement client-serveur de la restauration. Comme c'est le monde anglophone qui est en pointe dans l'informatique, nous, programmeuses francophones, on récupère les métaphores développées dans ce contexte culturel. Mais du coup, je me suis demandé quelles images nous aurions pu utiliser si le concept était né dans le monde francophone. Pour ce qui est d'exprimer une relation de dépendance, nous avons l'embarras du choix. En français, on aurait pu dire « principal et subordonné », comme en grammaire, quand on parle de proposition principale et proposition subordonnée. « Chef et subalterne », alors suzerain et vassal, si on aime puiser dans l'histoire. Ou, je pensais à « maître et serviteur », qui est le titre d'une nouvelle de Tolstoï. Hein. Un Tolstoï qui fait moins de 100 pages, c'est pas courant, mais c'est agréable à lire. Mais je crois que je pense pas que nous aurions jamais utilisé le terme « maître et esclave ». Alors, c'est pas que je pense que nous soyons plus vertueux que les États-Unis, et j'accuse personne de raciste, mais je constate seulement que c'est aux États-Unis que pour nommer une relation de suggestion entre deux objets informatiques, c'est l'image du maître et de l'esclave qui est venue à l'esprit. Inconsciemment ou non, je pense que c'est une référence directe à l'histoire sombre de ce pays. Alors, c'est un peu comme si j'ai pris un exemple pour aller pousser le bouchon un peu loin. Si j'avais, en informatique, imaginons, à décrire une relation d'échange circulaire entre trois objets. Bon. Et j'utilisais le terme commerce triangulaire. Commerce pour échange, triangulaire pour A3. Sauf qu'il se trouve que commerce triangulaire, ça désigne le système économique de la traite des esclaves organisée par l'Occident pendant plusieurs siècles. Donc effectivement, ce serait difficilement excusable et je pourrais pas dire que je l'ai pas fait en connaissance de cause. Et donc voilà, donc c'est pour ça que après une première réaction de déni, un peu de de compression un peu outrée face à justement cette force-là de la déclaration. J'ai trouvé que le renommage des termes avait du sens, et puis bon, après tout, ça ne me prendrait pas trop d'efforts dans mon propre code.
Je dois dire que je partage complètement ton point de vue. Les mots aussi, comme tu le dis, ont une histoire et une charge politique et peuvent être porteurs de violence. Et si on est attaché à l'idée de justice qu'incarne l'éthique du logiciel libre, comme toi, je pense voilà, que cette vigilance me paraît indispensable voilà, pour pouvoir exclure complètement le débat. Et c'est vrai que ça demande peu d'efforts. Et alors toi, du coup, par quoi as-tu remplacé ces termes ?
Alors, dans ma documentation en français, j'utilisais le terme « rattaché ». Alors, terme qui est en fait très français, qui vient tout de suite, tout droit de l'administration, notre culture administrative, dont nous sommes très fiers. Mais bon, l'équivalent en anglais ne sonnait pas très bien. Alors, j'ai hésité avec vassal, puisqu'il existe tel quel aussi en anglais et en français, mais bon, j'ai trouvé que ça faisait un peu pompeux. Et alors, j'ai finalement gardé maître, master, parce que pour le coup, c'est un terme qui a beaucoup de sens entre l'instituteur, entre l'avocat et ainsi de suite. Par contre, j'ai remplacé ces esclaves, donc slaves, par satellites, qui existent de la même manière en français et en anglais, un peu d'ailleurs à la fois en référence positive à la Lune, satellite de la Terre, et puis aussi un peu en référence à la guerre froide, où c'était le nom qu'on donnait aux pays de l'Est, qui étaient satellites du grand frère de l'Union soviétique. Bon, je pense que la référence historique ne choquera pas ni un Polonais ni un Tchèque si je l'utilise.
Oui, je pense que tu es à l'abri, oui. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette nouvelle première chronique de la saison 4, passionnante. Voilà. Et puis, je pense qu'on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée. Ouais. Je vous propose de passer à une pause musicale. Alors aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site auboutdufil.com nous fait découvrir Cyber SDF, ou plutôt redécouvrir car nous avions déjà eu le plaisir de diffuser cet artiste en suivant justement les recommandations de auboutdufil.com. Donc le premier morceau s'intitule Flame and Go par Cyber SDF, donc je vous souhaite une excellente écoute, on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Alors, nous venons d'écouter Flame & Go par CyberSDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site april.org, ainsi qu'une présentation de l'artiste sur le site auboutdufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Passons maintenant au sujet suivant. Alors, nous avons donc choisi de vous parler, comme je vous le disais aujourd'hui, de santé et de logiciels libres, et plus globalement des enjeux en termes de liberté informatique qui s'attachent à la santé. Donc un vaste sujet, s'il en est. Donc j'ai le plaisir pour cela d'accueillir, pour en parler avec moi, Adrien Parot, président de l'association Interop, qui vise à fédérer des bases de données de recherche au niveau national, avec un accent sur les logiciels et algorithmes libres. Adrien Parot, tu es également médecin et ingénieur, donc bonjour.
Bonjour.
Nous avons également avec nous Philippe Montargès, coprésident d'Alterway, et Pierre-Yves Dillard, membre fondateur d'Easter Eggs, deux entreprises historiques, si vous me permettez le terme, du logiciel libre. Donc Philippe, Pierre-Yves, bonjour.
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 Je tenais à préciser aussi que je parlerai aussi au nom du Hub Open Source, du Pôle Systématique et du CNNL.
D'accord. Donc Philippe Montargès, entendu. Donc pour mémoire, comme je le disais en introduction, nous avions réalisé le 28 janvier 2020 un sujet long sur le Health Hub, une plateforme publique de recherche sur les données de santé, qui a fait le choix, alors fort discutable bien sûr selon nous, mais nous ne sommes pas les seuls, d'utiliser le cloud Azure de Microsoft pour héberger les données. Et nous avions à cette occasion déjà eu le plaisir de recevoir Adrien Parot et Nicolas Paris, membre également d'Interop, ainsi que Stéphanie Combe qui présidait à ce qui était à l'époque le projet de plateforme et qui est donc devenu une plateforme en place. Entre-temps, beaucoup de choses en fait se sont produites et on viendra en grande partie dessus. Mais j'aimerais juste préciser rapidement en quelques mots, on va dire la genèse de l'émission d'aujourd'hui, parce qu'en fait, alors fin juin, une sénatrice Nathalie Goulet a déposé une proposition de résolution pour demander la création d'une commission d'enquête sur le Health Data Hub. Alors là, on s'était dit que c'était bien sûr une bonne occasion, peut-être de revenir sur le sujet, de voir ce qui avait pu progresser, et puis particulièrement voilà. Cadre la situation sanitaire que nous traversons, voilà, où les données de santé et de la recherche apparaissent quand même sous un jour d'autant plus important. Sauf que le temps d'organiser cela, en prenant en compte la période estivale, alors déjà, il y a une centrale d'achat de l'informatique hospitalière, CIIH, qui a lancé un appel d'offres pour proposer du logiciel libre, un appel d'offres très large sur le logiciel pour qu'il soit proposé aux membres des établissements de santé qui sont membres de ce central d'achat. Donc voilà, encore un sujet qu'on ne pouvait pas ignorer. Puis le Privacy Shield, qui est donc un accord entre l'Europe et les États-Unis sur l'encadrement du traitement des données personnelles, et donc un accord qui est déterminant pour la plateforme Health Data Hub, a été invalidé en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors Noémie Berger a d'ailleurs fait sa chronique du mardi 22 septembre sur le sujet. Donc à nouveau, voilà, quelque chose qu'on pouvait difficilement ne pas aborder dans une émission sur la santé et le logiciel libre. Donc il y a beaucoup de choses. Sans doute, nous serons amenés à revenir sur certains de ces sujets de manière dans des émissions plus ciblées. Donc je pense que ce sera intéressant peut-être pour objectif de cette émission de faire ressortir les enjeux de l'informatique dans le domaine de la santé, même si j'aime pas trop le terme de domaine, mais voilà, ces enjeux informatiques et en quoi le logiciel libre constitue un élément de réponse. Et d'ailleurs, j'aimerais bien peut-être poser cette première question à nos invités à tour de rôle. Quand on vous parle d'informatique et de santé, qu'est-ce que ça évoque chez vous, que ce soit positivement, négativement? Adrien Parot, si tu souhaites peut-être, et puis n'hésite pas à compléter l'introduction que j'ai pu faire de la présentation.
Déjà, merci de parler de ce sujet qui est pour moi très, très important. Pour moi, le principal enjeu d'informatique en santé, c'est les données de santé, parce que c'est grâce à elles qu'on va entraîner nos futurs algorithmes et pouvoir faire même de la recherche dans le domaine de l'informatique. Et si on dit données de santé tout de suite, c'est où est-ce qu'on héberge ces données, où sont-elles, et du coup un cadre de confiance qui doit rester vraiment primordial. Et il ne faut surtout pas partir trop vite dans une direction si celle-ci n'est pas informée de façon transparente et si le patient reste en confiance dans le système de santé. L'informatique en santé s'inscrit dans la santé en général. Et les valeurs de confiance et de secret sont vraiment au fondement de la médecine. Donc pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur qui doit stresser aussi un peu les informaticiens, parce que c'est À ce titre, ils deviennent des professionnels de santé aussi lorsqu'ils traitent des données de santé. Donc c'est vraiment, ça impose presque un code de déontologie, enfin pourquoi pas. Mais en tout cas, ça doit vraiment obséder. Il faut que les patients aient confiance, il faut informer les patients. Et je voulais juste rapidement faire une petite référence à la chronique d'avant sur les rapports maître-esclave. Et du coup, nous aussi, peut-être qu'on est un peu dans une position de, enfin une mentalité un peu de colonisé, où on pense que on ne peut pas faire autrement que, je vais lancer voilà, le Microsoft, Apple, les GAFAM ou les BATX, donc Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Donc on ne peut pas faire autrement que ça. On est obligé d'utiliser ça. Ils ont des budgets de développement absolument énormes. Et donc moi, l'idée, c'est de dire que si on peut, c'est une mentalité. Le logiciel libre existe. Il y a plein de choses qui existent. C'est pas parfait, mais on peut le faire, quoi.
Oui, c'est très juste. Et puis la colonisation des imaginaires, on voit comment ça peut être important. Oui. Pierre-Yves Dillard, qu'est-ce que ça évoque chez toi, l'informatique, la santé, lorsqu'on voilà, quand on fait le parallèle entre les deux?
Déjà, de mon côté, c'est un monde qui est particulier et qu'on n'aborde pas comme un autre secteur, parce que c'est un domaine sensible qui nous touche forcément en tant que citoyen également. On dirait qu'on y a un intérêt en tant que citoyen. Donc, on ne l'aborde pas de la même façon que notre domaine. Ensuite, c'est un... moi, j'ai vu un choc de une rencontre avec une forme de choix de culture où d'un côté on a alors avec quelques exceptions près, hein, il y en a notamment à la PHP, mais un monde médical qui est un peu souvent otage du jargon et de l'informatique, et qui finalement est en train d'apprendre à réfléchir différemment et à réfléchir les outils et non pas seulement à réfléchir en termes de solutions, de boîtes et de marques et de packages, mais à réfléchir à ses besoins en termes de solutions et d'organisation. Et c'est là où, effectivement, on a, nous, prestataires du logiciel libre, des choses à leur dire et des choses à échanger. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir des visions, on peut partager des visions sur comment on peut emmener une informatique en garantissant, notamment, et on en revient aux données, que la donnée des citoyens est bien traitée et pas vendue ou commercialisée sans son aval.
C'est très juste. Et d'ailleurs, un des points centraux du règlement général de protection des données, c'est bien la loyauté des traitements. Et lorsqu'on parle effectivement des données de santé des citoyens, on peut voir à quel point la question est fondamentale. Philippe Enchargès d'Altarway, oui. Et notamment, oui. Quel serait toi ta... Qu'est-ce que ça évoque donc, oui. Pour toi?
Moi, ce que ça évoque pour moi, c'est que ça met en exergue là, une problématique très large qui est survenue suite à cette crise et encore en cours de la Covid, où on s'aperçoit qu'effectivement, on peut avoir les meilleures intentions du monde au niveau des pouvoirs publics et au niveau même des citoyens pour pouvoir... quelque part récupérer la main sur ces logiciels, sur ces données, mais ça met en exergue un point fondamental, c'est que l'industrie européenne, voire française, notamment en termes d'infrastructure, a pris un retard tellement énorme qu'on en est à se demander comment on fait pour développer des applications métiers ou d'usage, comme dans le domaine de la santé, qui nécessitent vraiment une très grande spécialisation et qui ont, on le voit bien, un impact sociétal au niveau des citoyens qui est énorme. On peut avoir les meilleurs projets du monde, mais si on s'aperçoit que si on n'a pas une maîtrise des infrastructures, et notamment là on parle des données, des infrastructures en termes de cloud, en termes de réseau, on s'aperçoit qu'on peut avoir les meilleurs projets du monde, mais derrière ça débouche sur des hiatus comme le Health Data Hub qui effectivement a fait un choix quelque part par défaut, parce qu'il n'y avait qu'un seul prestataire à un instant T qui pouvait répondre, semble-t-il, au cahier des charges du Health Data Hub. Et pour moi, ça pose vraiment la question, quelque part, la schizophrénie de nos pouvoirs publics qui pousse effectivement à digitaliser très vite, à offrir des solutions très vite. Et dans le cas de la santé, on voit qu'il y a un intérêt énorme à exploiter toutes les données de santé qui existent pour pouvoir effectivement pouvoir être capable de fournir des solutions, des analyses plus pertinentes et plus rapidement. Mais s'il n'y a pas derrière cette volonté aussi d'investir et de se sortir quelque part de cette dépendance à l'infrastructure qui est soit qu'elle soit essentiellement anglo-saxonne, américaine, voire chinoise, c'est vous allez, on peut pas d'un côté pousser à la souveraineté numérique et de l'autre côté continuer à ne pas dans les appels d'offres à promouvoir les solutions d'infrastructure qui sont plutôt européennes. sachant qu'elles sont effectivement à un stade qui n'a rien à voir avec ce que peuvent proposer les sociétés dont on parle, la multi-américaine ou autre. Donc pour moi, c'est un vrai sujet, ça met en exergue ce point-là, surtout sur un domaine comme la santé, qui est, comme le disait Pierre avant, est un domaine qui est extrêmement sensible et qui demande vraiment à avancer avec précaution.
Oui, très juste. Mais c'est vrai que la question de souveraineté est assez récurrente. À l'April, c'est vrai qu'on aime bien aussi dire que, au-delà de la savoir, bien que la souveraineté territoriale par rapport à l'américaine et chinoise et donc une souveraineté européenne, ce qui importe beaucoup aussi, c'est même indispensable l'usage de logiciels libres pour qu'on parle vraiment plutôt d'une souveraineté populaire, qu'on puisse accéder aux sources. Je crois que Adrien souhaitait réagir également.
Oui, c'est aussi pour préciser que dans le cadre du choix du Health Data Hub, il n'y a pas eu de concertation large avec les différents acteurs, notamment les industriels du logiciel libre. Donc ça n'a pas été fait, ça aurait pu, et c'est ça qui est bien, comme on disait, comme Pierre-Yves disait, avec le logiciel libre, on peut co-construire. Donc on aurait pu être dans une démarche de co-construction et d'évolution par palier progressive. Déjà, construire une communauté d'hôpitaux qui partagent et échangent leurs données, centrées sur l'interopérabilité. C'est déjà un travail de fond qui prend des années, donc au moins des mois et des années, je dirais. Donc on aurait pu faire progressivement. Et sur les infrastructures de la PHP, les hôpitaux de Paris, et je parle d'eux parce que je les connais, parce que j'y ai travaillé, ont réussi en 3 ans à monter une plateforme d'analyse big data à l'état de l'art, centré autour des logiciels open source et libres, voilà, et qui traite 11 millions de patients avec plusieurs projets. Donc je pense vraiment que c'est même sur les hébergements et les infrastructures, si on s'en donne les moyens, on n'est pas en tout cas voilà, moi, centré peut-être un peu à Paris et aux hôpitaux, oui, de Paris, on peut y arriver.
Pierre-Yves Dillard, donc.
Non, pardon, j'ai accepté complètement, parce que nous, on est au cœur de ces, oui, problématiques. Et effectivement, alors après, l'hôpital n'est pas la PHP, et le PHP est vraiment une exception dans le paysage. Après, quand on va dans des autres établissements qui ont moins de moyens, finalement, les réalités sont plus complexes, et c'est plus compliqué à mettre en œuvre, il y a moins de ressources. Et ce qui est frappant dans ce milieu-là, et Adrien en est un exemple, hein, c'est que les informaticiens sont des médecins. Et moi, je suis émerveillé dans nos relations, nous, qu'on peut avoir avec les hôpitaux, c'est de savoir qu'entre deux requêtes, il y a un service de réanimation en charge de la personne qui est, le jour, elle soigne des patients du Covid, et la nuit, elle fait des requêtes pour nous fournir des données, pour venir alimenter les applicatifs. C'est complètement fou comme situation. C'est des gens brillants, mais le système, dans certaines régions, le système tient grâce à une volonté incroyable de certaines personnes.
Est-ce que tu peux juste préciser ce que signifie requête pour les personnes qui ne sont pas forcément familières du jargon?
Ah pardon, nous on a un contexte où l'administrateur qui est en train de construire l'entrepôt de données et qui doit faire des requêtes pour aller récupérer des données pour venir les alimenter le futur entrepôt de données de santé, c'est le responsable de la réanimation par ailleurs.
Merci. Philippe Montagès.
Ce que disait Adrien tout à l'heure, effectivement, dans la consultation, par exemple, de l'écosystème des acteurs du logiciel libre et de l'open source en France, n'a pas été forcément contacté dans le cadre du Health Data Hub. Mais surtout, pour travailler notamment dans le domaine de la donnée et l'hébergement de la donnée, il y a cette fameuse certification de données de santé qui est à avoir pour travailler et notamment infogérer et administrer des données de santé en France. Et il y a six niveaux de certification dans la certification HDS. On s'aperçoit que, d'une part, il y a très peu d'acteurs qui la possèdent sur les six niveaux. Azure, d'ailleurs, de Microsoft, était un acteur qui le possédait sur les six niveaux. Mais quand on a cette certification, même avec les six niveaux, ça ne garantit en aucune façon que vos données seront gérées en France ou en Europe. Donc, pour moi, ça pose un problème aussi au niveau de ces certifications qui sont complètes pour gérer correctement selon à la fois la logistique, à la fois l'infrastructure logicielle, à la fois l'administration des données, la façon dont on utilise l'information et aussi le stockage. mais tout ça, on peut être certifié données de santé sans avoir l'obligation, mais c'est ça qui, moi, m'a frappé dans ce dossier-là, sans avoir l'obligation d'avoir ces données stockées en France ou voire en Europe.
Oui, c'est significatif. Et ça, c'est vrai que c'est au cœur, ça, l'hébergement, mais on va revenir dessus, parce qu'on va parler, de la recherche sur la santé. On va notamment évoquer des actions en cours pour lutter contre ce choix sur les AltaHub. Et ça m'évoque aussi ce que Philippe Montargès, tu évoquais le cahier des charges du AltaHub. Et je pense que ce soit quoi on doit aussi avoir à l'esprit, c'est que tout ça, il y a des décisions aussi politiques ou des absences de décisions politiques, que ce soit dans la définition des critères pour être hébergé dans notre santé, dans la manière dont va être rédigé le cahier des charges du Health Data Hub. Il faut aussi réfléchir, voilà, en termes politiques, qu'est-ce qu'on veut atteindre et quelle place, notamment, on prend en compte pour les libertés informatiques. Je vous propose quand même, avant de passer à cette question qui, je pense, nous prendra peut-être plus de temps, puisqu'elle est peut-être plus présente, évoquer quand même la situation, parce que Pierre-Yves, notamment, commençait à évoquer ça, de l'informatique hospitalière, puisqu'il y a eu cet appel d'offres pendant l'été, et c'est vrai qu'on s'y attendait pas particulièrement. Clairement, parce qu'il faut savoir que cette centrale d'achat, alors il y a plusieurs manières pour les hôpitaux de se fournir en informatique. Cette centrale d'achat, l'informatique hospitalière, est sans doute une des principales. Donc elle a 1200 établissements de santé qui sont membres et qui peuvent se fournir via cet intermédiaire. Et elle était plutôt, on va dire, elle poussait plutôt elle vendait plutôt du Microsoft. Hein. Elle était quand même plutôt vendeuse de Microsoft. Et là, un appel d'offres sur de logiciels libres, sur une très grande variété de services logiciels libres a été réalisé cet été. Alors, avant de parler d'ailleurs spécifiquement de cet appel d'offres, je suis expert, moi je ne connais pas du tout l'état, on va dire, de l'informatique hospitalière. Quelles sont déjà peut-être les spécificités par rapport, on imagine qu'elles sont là, donc les données de santé ont été évoquées. Quelles sont les spécificités de l'informatique dans un hôpital ? Adrien, toi qui es médecin, peut-être que tu souhaites...
Il y a beaucoup de logiciels qui ne sont pas totalement spécifiques à l'hôpital. Et du coup, on peut aussi commencer par eux et grappiller progressivement un éditeur de texte collaboratif, un tableau Excel. Enfin, il y a plein de gestions d'administration. Enfin, toutes ces... C'est quelque chose qui est très transversal. Et d'ailleurs, les SI se sont équipés historiquement, les services d'information et des hôpitaux se sont équipés initialement déjà sur les entrées-sorties, des choses qui sont assez loin du métier. Et après, sinon, les besoins, le principal besoin, c'est le dossier patient informatisé, potentiellement connecté avec le DMP, qui est le dossier patient national cette fois-ci. Et donc là, il existe plusieurs acteurs, dont des logiciels libres aussi. Il y a un projet GNU qui s'appelle GNU Health, par exemple, qui pense à la fédération, à la décentralisation, aux standards d'interopérabilité. Donc il y a tout ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, c'est l'envergure du marché. Déjà, si par exemple, on remplace Oracle, si on commence par la base, qui est la base de données, et que progressivement, on se libère d'Oracle, qui coûte beaucoup d'argent, pour aller vers Postgres, déjà, c'est un pas énorme pour les hôpitaux. Donc,
Merci. Et tu devances une question que je me posais, c'était s'il y avait des logiciels libres pardon, spécifiques aussi pour les métiers de santé. Et du coup, j'ai envie de me tourner vers nos deux représentants d'entreprises du libre. Pierre-Yves Dillard, d'Historex.
Alors, nous, on est une boîte de services. Donc, nous, notre métier, c'est de travailler plutôt sur des projets à façon. Et on ne fournit pas d'outils, on fournit de l'assistance. Effectivement, donc nous, quand on va parler d'une solution, on va forcément notamment proposer, nous en tout cas chez Historex PostgreSQL, ça fera partie d'une solution, mais on ne va pas fournir ou vendre PostgreSQL comme on vendrait un support Oracle. Ça sera intégré dans un projet plus global. Voilà. Mais juste pour répondre à la première question sur quels sont les logiciels de l'informatique hospitalière. Nous, on est amené à les recenser à l'échelle notamment de la PHM, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de disparités et d'outils, de techno, de licences. Et quand on doit regrouper le tout au sein d'un même entrepôt, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de travail déjà d'inventaire à faire pour créer un vrai référentiel de données qui permet de faire un état de l'art de le statut de la donnée, par où elle rentre, par où elle sort, et où est-ce qu'on peut la récupérer, et comment on peut garantir sa traçabilité. Voilà. Et c'est la, pour moi, c'est beaucoup de disparités et en même temps d'inégalités, parce que d'un hôpital à l'autre, on va avoir des outils avancés d'un côté, puis complètement à la traîne de l'autre, et on peut être surpris encore de retrouver des traitements qui sont faits sous forme de fichiers classeurs, sur des notamment pour des besoins d'études et des choses comme ça. Il y a des collectes qui se font, non pas en base de données, mais tout simplement via des tableurs. Hein.
Effectivement, ça paraît peut-être archaïque dans cette ère du big data qu'on nous vend. Philippe Montargès, une réaction.
Alors moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, effectivement, que le secteur hospitalier lance ce type d'appel d'offres, spécifiquement autour de solutions open source et logiciels libres. Le seul bémol, et je connais un petit peu le dossier parce que nous, Alterway, on fait partie d'un groupement qui répond à ce dossier-là. Concrètement. Et donc, dans l'étude du dossier, en fait, avec le CNLL, on a une grosse réflexion, on a mené une enquête sur globalement tous les marchés de support open source et logiciels libres qu'il y a auprès des administrations. Et il y a quand même à éduquer, entre guillemets, les acheteurs du secteur public à ce que c'est. On ne commande pas du logiciel libre comme on commande une solution propriétaire ou une solution sur étagère. Je pense qu'il faut que culturellement, les mentalités des acheteurs évoluent, mais il faut être bien conscient que l'argent qu'on investit que les centrales d'achat investissent dans ces appels d'offres doit profiter derrière à tout un écosystème d'acteurs industriels, de PME, d'éditeurs, d'infogéreurs, de sociétés de conseil, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit dans le modèle, la constitution du modèle même de ces appels d'offres, c'est qu'il ne garantit pas quand même. Et c'est un petit peu le sujet de cet appel d'offres, il ne garantit pas un montant forfaitaire qui sera attribué à telle ou telle PME. Et c'est pour ces PME-là qui répondent à ces dossiers-là, c'est très compliqué de pouvoir s'engager sans passer par un groupement. Et un groupement qui soit porté par un gros intégrateur. Parce qu'effectivement, il y a une prise de risque et puis il y a quand même à garantir un certain niveau de services, de SLA parfois, et notamment dans le cas de ce marché-là, qui est un marché très très large, qui dépasse le cadre du support de logiciels libres, mais qui va depuis des études de préconisation dans le choix d'outils open source, des études de migration pour migrer de systèmes propriétaires à des systèmes logiciels libres, qui fournit des solutions d'éditeurs en mode SaaS aux hôpitaux, aux établissements hospitaliers, qui puissent aussi apporter des solutions clés en main sur tout ce qui est poste de travail ou Linux et tout, et puis derrière qui assure aussi une fonction de support. Donc c'est un marché qui est très ouvert, mais seulement ce qu'on voit, c'est que la centrale d'achat, en l'occurrence le CIH là, est un organisme qui, en fait, sera plutôt un référencement auprès des 1200 établissements que vraiment une je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais que vraiment un budget à dépenser qui sera alloué aux sociétés qui vont répondre sur ce dossier-là. Donc c'est très compliqué de faire évoluer. Il y a une très grosse réflexion qui a lieu actuellement dans le secteur public. Nous, au niveau du CNLL, là, avec ce type de groupement, on a répondu à un dossier récemment sur la DGFiP, sur la Direction Générale des Finances Publiques. Mais on essaye de faire évoluer le paradigme de ces dossiers d'appel d'offres. Il ne faut vraiment pas le penser uniquement comment je massifie, comment j'optimise mon achat pour N utilisateurs derrière, mais il faut le penser vraiment comment j'investis dans un écosystème qui derrière va me fournir un service résilient, un service qui est évolutif et qui va aussi, quelque part, contribuer à l'émergence d'acteurs industriels de taille suffisante, puisque, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le problème qu'on a en France et en Europe, c'est qu'on n'a pas d'acteurs dans le numérique, et notamment dans le numérique ouvert et open source, qui soient de taille très très gros, très importante. Et donc, si on veut faire en sorte qu'on ait des acteurs qui grossissent et qui acquièrent cette taille critique, il faut que le mécanisme des appels d'offres même public, et notamment de ces marchés, ces grands marchés d'expertise, de support ou ces contrats cadres, mais aillent dans cette logique-là et favorisent quelque part l'ensemble de l'écosystème derrière. C'est ça qu'on essaye de pousser, et c'est ça que je pourrais mettre en avant dans cet appel d'offres-là aussi.
Oui, c'est un point... Et c'est vrai que la question de la commande publique peut paraître hors sujet, mais en fait, il ne l'est pas, dans le sens où on voit bien les effets que ça peut produire. Bah, du coup, comment va s'équiper une partie de l'informatique hospitalière? Et c'est vrai que quelque chose qu'on pousse, notamment, bah, nous, on pousse pour une priorité logistique, donc ça, c'est pour l'aspect juridique, mais aussi culturel, comme tu l'évoquais. Et on voit bien, là, à nouveau, alors, pour les personnes qui s'y connaissent et qui s'intéressent, voilà, le contrat est un accord cadre mono-attributaire non allotiste, c'est-à-dire qu'une seule réponse doit répondre à tout. Et donc, ça, de fait, effectivement, c'est plutôt adapté aux gros acteurs uniques, hein, qui caractérisent plus l'informatique privative, plutôt qu'un environnement constitué d'une constellation de TPME, PME, qui vont être complémentaires dans leur façon de faire et qui, en fait, vont faire communauté autour d'un logiciel libre ou de plusieurs, et qui, en plus, sont plus souvent inscrites dans le tissu économique local. Bah, Pierre-Yves Dillard, tu as peut-être aussi, toi, une réflexion sur ce sujet.
Oui, parce qu'en fait, ces accords cadres, qu'ils soient spécifiques au logiciel libre ou à d'autres types de logiciels, c'est toujours la même chose. Ils sont réservés forcément. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un très gros acteur qui prenne le leadership pour pouvoir avoir la place suffisante pour pouvoir répondre. C'est toujours pareil. En fait, on a un inventaire absolument affolant de prestations attendues ou de logiciels à supporter. Des listes assez étranges où on est là en train de dire tiens, bah, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Pour des acteurs comme nous, hein, des petites PME, avec des expertises sur certains sujets, on ne se sent pas tout à fait concerné par tout ça, sachant que dans la vraie vie, même les grands acteurs, quand ils vont répondre et être à la fin titulaires du marché, souvent ils vont se retourner et finalement sous-traiter vers les expertises, parce que en fait, même les gros acteurs, aussi gros qu'ils soient, n'ont pas la capacité souvent à couvrir l'immensité des attentes de tels appels d'offres. Voilà. Moi, à chaque fois, je trouve ça toujours un peu frustrant. J'ai l'impression que dans le monde propriétaire, on n'a pas cette exigence de dire on fait un AO sur tout et on veut que vous répondiez. C'est compliqué. Moi, je sais qu'on a été contactés, nous, pour notamment s'aligner sur... on nous a proposé une liste d'outils qu'on voulait supporter. Alors, la plupart, c'est des outils qu'on n'a pas toujours entendu parler ou qu'on utilise un petit peu, mais c'est sûrement anecdotique en termes d'expertise attendue. Faut savoir qu'une société sérieuse, quand elle fait du support ou quand elle apporte sur un outil, c'est pas l'outil en lui-même, c'est l'outil inséré dans le système d'information qui est important. Ça veut dire qu'on répond normalement avant par un audit, par une étude, par une analyse du contexte. C'est des réflexes qu'on a et on ne sait pas répondre comme ça en se disant oui, ok, on est expert ceci, on est expert cela. C'est, on est toujours assez dérangé par ces marchés, ces appels d'offres.
Oui, Philippe, je te laisserai la parole peut-être pour un mot de conclusion, parce que le temps file. Et j'aimerais aussi qu'on puisse aborder le reste, enfin les questions de la recherche et de l'hébergement des données de santé. Un dernier mot avant qu'on fasse une petite pause musicale, Philippe.
Non, juste pour rebondir là-dessus, effectivement, je pense que c'est une question de culture dans la commande publique, tu avais raison. Et le secteur de la santé, s'il veut basculer massivement vers le logiciel libre, je pense qu'il y a un intérêt à le faire pour des raisons éthiques, des raisons sociétales, mais des raisons aussi de favoriser aussi l'économie nationale et les entreprises qui travaillent. Parce que l'entreprise et le logiciel libre en France, c'est des entreprises quand même, des PME, des TPE, et donc il y a intérêt à favoriser ce tissu-là. Et donc, je pense que la culture d'achat des grands donneurs d'ordre de ces marchés-là est encore une culture de massification, d'optimisation, et pas une culture où j'investis par la commande publique dans un écosystème industriel.
Super. Et un dernier mot à Adrien.
Ouais, je voulais du coup pour rebondir aussi sur Pierre-Yves sur la place des entrepôts et que lui il voit plutôt des systèmes qui sont éclatés et donc en effet ça et du coup ça fait la transition que les entrepôts de données de santé des hôpitaux justement sont le lieu de passage et de standardisation, d'homogénéisation des données pour pouvoir réalimenter des outils et se libérer un peu des enclaves propriétaires et migrer progressivement vers des outils open source et je rejoins sur la culture un peu de la massification, de la centralisation. C'est typiquement ce qu'on voit dans le Health Data Hub, qui est un entrepôt de données déconnecté des lieux de production et qui du coup met à mal aussi cette logique décentralisée d'écosystème, de gens qui essaient de construire, de co-construire et de se libérer des enclaves. Enfin, voilà, ça me fait réagir aussi avec le prochain sujet. Du coup.
Et ben, c'est une super transition qui nous amènera donc à la suite du sujet. Après une pause musicale, je vous propose d'écouter donc Dolling par CyberSDF. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. D'écouter Dolling, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, et nous discutons de santé et de logiciels libres avec nos invités Adrien Parot, Pierre-Yves Dillard et Philippe Montargès. N'hésitez pas à participer à notre conversation. Au numéro de téléphone, alors j'ai l'ancien numéro de téléphone, mais vous pouvez le retrouver sur le... C'est un numéro 01 que vous pourrez retrouver sur le site de la radio. Et puis vous nous retrouvez aussi sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer en direct. Alors nous évoquions voilà, les problématiques de l'informatique hospitalière, la problématique de la commande publique, comment elle doit évoluer pour mieux prendre en compte également le logiciel libre, qui est donc un élément déterminant pour une informatique plus juste, plus loyale. Et on évoquait donc en début d'émission aussi qu'il y a cet enjeu de la recherche sur la recherche pour la santé. Et on voit bien en ce moment qu'à quel point avoir une recherche efficace sur les questions de santé est indispensable. On a beaucoup parlé de données de santé. On imagine bien que pour la recherche, accéder, la question de comment on accède à ces données de santé, quelles données on peut accéder, comment on peut y accéder, voilà, est-ce qu'elles doivent être pseudonymisées, anonymisées. Bon, ça y a énormément de questions. Je pense que dans la continuité de nos échanges, et parce que un point qu'on évoque beaucoup, c'est le Health Data Hub, c'est cette question des hébergeurs de santé. Philippe Montargès évoquait ce système critiquable, donc. Puisqu'il ne prend pas en compte l'usage ou non, le lieu d'hébergement, ne prend pas en compte, il me semble, non plus l'utilisation ou pas de logiciels libres. et donc qui est la certification hébergeur de données de santé. Bah, Philippe Montargès, est-ce que tu évoquais ces certifications? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi elles consistent? Alors, tu as dit qu'il y a plusieurs niveaux, par qui elle est attribuée, etc.
Bon, en fait, c'est comme toutes les certifications. Une certification de santé, ça repose sur, là, il y a 6 niveaux. Donc ça va depuis l'aspect très très physique, c'est la disposition de maintien en condition opérationnelle de site physique, donc c'est vraiment là sur le data center, l'aspect physique, la mise à disposition de maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information, donc c'est tout l'aspect serveur, switch, tout ce qui peut. Et puis ensuite, il y a vraiment tout ce qui est la partie qui concerne la plateforme d'hébergement d'applications, donc l'application qui est traitée sur cette infrastructure, physique. Il y a tout ce qui est aussi l'infrastructure virtuelle, donc toute la couche logicielle, qui est aussi une autre catégorie. Et puis après, il y a vraiment la partie 5, qui est l'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé, qui est le niveau 5 de la certification. Et puis, il y a le niveau 6, qui est la sauvegarde des données de santé, c'est-à-dire elles sont effectivement stockées et sauvegardées. Donc voilà, il y a ces 6 certifications et on peut être très bien certifié sur, par exemple, les fournisseurs data center en France, que ce soit des fournisseurs étrangers ou français, peuvent être certifiés 1 et 2, c'est-à-dire sur l'aspect purement physique, infrastructure matérielle. Et puis, c'est le cas, par exemple, d'un opérateur comme Equinix, on connaît. Puis, vous avez des gens comme, par exemple, OVH, mais il est certifié sur tous les points, sauf le point 5, c'est-à-dire qu'il n'a pas actuellement, alors peut-être qu'il a récupéré, mais il n'avait pas à date, l'administration, l'exploitation du système d'information contenant les données de santé. Donc, on voit qu'il y a là-dessus, il y a beaucoup de choses importantes. Alors, c'est sûr que c'est une certification qui est quand même... lourde pour les entreprises, et c'est toujours pareil, les principes de certification, ça s'adresse quand même à des entreprises qui ont déjà une certaine taille ou un certain volume d'activité dans ce domaine-là. Et donc, par exemple, Amazon n'est pas sur le point 5, alors que Azure l'est sur le point 5, le cinquième niveau qui concerne effectivement l'administration des données de santé. Donc, on voit la complexité du système, et puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut avoir les 6 niveaux de certification HGS. Mais ça n'engage pas, de toute façon, ça ne garantit pas ça. De toute manière, le point qui peut être critique dans le cas des données de santé, c'est à dire où est stocké, où physiquement peut être stocké ou transféré la donnée. Donc ça ne garantit pas que ce soit en France ou en Europe.
Donc juste pour résumer, si je comprends bien, en fait, chacun de ces niveaux il faut les avoir et ça dit ce qu'on est en mesure de faire avec données de santé.
On peut être HGS, mais que sur le niveau 1 et 2, c'est-à-dire que vous êtes HDS, niveau de santé, mais que sur la partie mise, un data center, un offreur de data center, parce que vous avez des opérateurs qui ne font que mettre des data centers à disposition de prestataires, eux seront 1 et 2 parce qu'ils garantissent que la sécurité, la pérennité, la résilience de leur infrastructure en termes d'établissement physique, en termes de matériel physique, sur tel lieu et sur le réseau, et ainsi de suite. Donc, mais ils ne seront pas forcément, ils seront pas administrateurs de santé, ils ne pourront pas, eux, directement faire de l'hébergement sur leur data center. Ce sera un prestataire qui pourra le faire. Donc il peut y avoir comme ça aussi un mécanisme de couche de prestataires qui sont les uns. Il peut y avoir le 1 et 2, puis un autre prestataire qui est certifié sur 3 et 4 et qui est en partenariat avec le 1 et 2, et ainsi de suite. Donc il y a aussi ce type de mécanisme qui peut être mis en œuvre.
On voit la complexité, effectivement. Voilà. Alors, Marie-Odile avait une question sur le salon Libre à vous. Une question tout à fait logique, d'ailleurs. Qui est-ce qui accorde cette certification?
La certification, c'est une bonne question. C'est comme pour les certifications ISO. C'est un organisme spécialisé qui les attribue et qui a tout un process de préparation, d'examen. C'est un organisme, je n'ai pas le nom de l'organisme.
Le COFRAC.
C'est ça.
COFRAC, entendu. Je sais pas, on retrouvera, c'est pas forcément la peine de déplier la chronique. Adrien, j'ai l'impression que tu souhaitais réagir ou...
C'est juste sur... en effet, ça ne garantit pas de la localisation des données et surtout de la juridiction de l'entreprise qui héberge les données. Et donc là, on rentre dans des sphères qu'on en va peut-être un petit peu parler plus tard. Et souligner aussi l'activité 5, le flou de l'activité 5 qui est l'infogérance. Parce que dans l'absolu, on pourrait très bien dire que tous les éditeurs de logiciels en santé devraient être certifiés activité 5 parce que si à partir du moment où ils ont accès aux données qu'ils ont dans leur logiciel, qu'ils ont un accès à une base de données, ce qui est assez commun pour Doctolib dit par exemple qu'il a accès aux données des patients, voilà. Donc c'est des choses mais du coup le corollaire ça devrait être peut-être d'avoir l'activité 5, et chose qui serait du coup énorme en termes de certification. Et donc voilà, c'est ce flou aussi que je voulais souligner. Voilà.
Repréciser ce qu'est l'activité 5 pour les personnes qui sont moins familières.
C'est l'infogérance en fait applicative. C'est le fait d'administrer l'application, d'y accéder pour y faire des opérations de maintenance sur la production. Aujourd'hui, pour moi, il y a un flou que le législateur a promis de clarifier, parce que maintenir l'activité 5 de manière formelle sous certification, c'est exclure un tissu d'éditeurs et souvent de petits éditeurs ou de petites sociétés de services qui vont ne pas pouvoir finalement assurer la TVA d'un outil qu'elles auraient développé. Enfin, ça me paraîtrait complètement fou.
Oui, surtout que c'est quand même assez lourd pour une entreprise de passer ses certifications. Nous, on sort des certifications ISO 27001, c'est déjà compliqué pour un domaine d'infogérance.
Ouais.
Et passer derrière la foulée les certifications. C'est un investissement lourd pour une PME, c'est sûr.
Ouais. D'ailleurs, je crois que Adrien du musée Caterop souhaitait, enfin, vous mettez en place quelque chose pour.
Du coup, nous on sous-traiterait justement cette activité 5, mais en effet, l'idée, nous, c'est un peu sur le modèle des chatons et de Framasoft. Et les chatons, c'est j'ai pas l'acronyme en tête, mais c'est un
petit des hébergeurs alternatifs neutres, transparents. Alors, du coup, j'ai inversé.
Solidaire,
voilà.
Et du coup, et donc, c'est d'essayer de décentraliser un peu le web et les serveurs. Nous, voilà, en s'alliant avec un hébergeur qui a du coup l'activité 5, de faire installer du coup, parce que nous on n'aurait accès à aucune donnée, mais de faire installer des logiciels libres chez un hébergeur de données de santé de fournir, enfin de permettre aux utilisateurs et typiquement aux médecins un des premiers services ça sera la visioconférence avec Jitsi qui est un logiciel de vidéoconférence libre voilà qui est très bien.
On avait reçu le fondateur, enfin le créateur,
oui,
de Jitsi, donc disponible en podcast, on vous retrouvez la référence sur le site. Ça c'est très intéressant. Bah, peut-être qu'on pourra j'évoquer des possibles émissions futures, ça pourrait peut-être faire l'objet d'une. Je vous propose quand même d'avancer puisque le temps file et on parlait des limites de cet hébergeur de données de santé, puisqu'effectivement ça n'a pas empêché, enfin Microsoft détient ce sésame. Microsoft a donc été choisi comme hébergeur des données de santé pour la plateforme Health Data Hub, avec voilà toutes les problématiques qu'on peut imaginer, dont on avait parlé donc le 28 janvier 2020. Alors Interop a été assez active, et il l'est toujours, pour lutter un peu contre ce qu'on considère être effectivement un choix très regrettable politiquement. Peut-être faire un petit point. Alors il y a une pétition pour demander une commission d'enquête, je crois qu'il y a des recours devant le juge. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point, Adrien?
Oui, du coup, en deux mots, le Health Data Hub, c'est la centralisation dans un seul lieu de toutes les données de santé de tous les citoyens français. Et toutes les données de santé, c'est vraiment tout, le kiné, le médecin G, la pharmacie, enfin, etc., etc. Tout ce qui est santé va aller au Health Data Hub de façon pseudonymisée. Donc, on n'aura pas les infos directement identifiantes, mais c'est quand même une très, très grosse base de données qui recoupe 67 millions de patients au moins. Et donc, en effet, nous, les actions, tout de suite, Microsoft, ça nous a un peu émus, on va dire. Et ce qui s'est passé aussi cet été, c'est l'invalidation d'un texte fondamental qui est du coup le Privacy Shield, ou bouclier, en français, bouclier de protection des données. Et ce texte permettait d'échanger dans un cadre légal des données entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc, si par exemple Microsoft, parce que là c'est ce qui nous concerne, adhérait à ce texte, et donc il pouvait faire ces échanges. Ce texte-là a été invalidé par un militant de la vie privée, enfin des droits et des libertés fondamentales, qui s'appelle Schrems. Et donc, depuis le 16 juillet, tous les transferts entre l'Europe et les États-Unis sont réputés illégaux.
Pour préciser peut-être que tu es invalidé par ce militant, et il faut vraiment saluer son action, mais ça montre aussi qu'une personne, un individu, il s'est saisi de son droit, il a amené ça jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, où il a obtenu l'invalidation de cet accord, qui était censé dire qu'effectivement les deux régimes juridiques partageaient les valeurs communes, enfin les critères minimums, et ce qui a invalidé la Cour de justice. Et donc on peut aussi saluer, voilà, montrer aussi qu'une action militante
peut aboutir.
À quoi ça peut aboutir.
Enfin, je n'ai pas la date, mais ça a l'air d'aboutir à tel point que Facebook menace la Cour de justice de partir de l'Union européenne, avec Instagram au passage. Donc il y a une pression et un bras de fer qui se met comme ça entre les États-Unis et l'Union européenne. Et donc ça prouve bien que ce que la CNIL plusieurs fois aussi a dit, c'est que au sein du Health Data Hub, et que Microsoft ne s'engage pas à ce que les données restent dans l'Union européenne lorsque les données sont analysées, donc sur un processeur ou sur une carte graphique, à partir du moment où il y a de l'analyse et pas que du stockage par contrat, Microsoft ne s'engage pas à ce que les données restent dans l'Union européenne. Et donc à la suite de ça, en effet, on a fait un recours au Conseil d'État qui a été annulé récemment, mais on poursuit, il y aura d'autres actions et on se bat pour ça, contre ça, nous en l'occurrence.
Oui, on mettra le lien, il y a eu la communauté, on mettra le lien sur le site.
Au pire, oui, vous que le CNL était aussi assez actif là-dessus.
Mais c'était pas Interop tout seul, oui, c'est un collectif dont Interop. Oui.
Un collectif, il y a Flo Scandal, puis il y a beaucoup d'organisations derrière. Par contre, moi, la question que je voulais. Je reviens sur cette question, effectivement, c'est là la contradiction que je disais au début de ce débat. Cette contradiction, c'est qu'en fait, pourquoi on en arrive à n'avoir comme choix que choisir Azure? C'est ça pour moi la question qui doit nous interpeller, nous industriels, parce que nous on travaille dans la fabrication du logiciel et puis aussi son delivery. Ce qui nous interpellait, c'est effectivement... Il y a effectivement, c'est pas sain, et on est tous d'accord sur le fait que c'est pas éthique et c'est pas sain que les données puissent être transférées aux États-Unis ou être exploitées par d'autres. On est tout à fait d'accord. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on en arrive à ce type de choix, ou par défaut. Je pense pas que les gestionnaires, je ne suis pas spécialiste du dossier, mais les gestionnaires de Health Data Hub aient voulu absolument favoriser Microsoft. Je pense pas que ça vienne d'un choix par volontaire, mais je pense que ça vient par, c'est un choix par défaut. Et en fait, ça pose la question, effectivement, est-ce qu'il y a des alternatives concrètes, industrielles, opérationnelles, qui pourraient traiter le problème du Health Data Hub. Et c'est ça, pour moi, la question qu'on se pose au niveau du CNL, au niveau du Hub Open Source. Il y a une initiative dans laquelle nous, on investit beaucoup. C'est la réponse qu'apporte ce fameux projet Gaia-X. Parce qu'effectivement, c'est une façon de construire en Europe, peut-être une alternative, peut-être une opportunité de construire en Europe, une alternative en termes d'infrastructure de réseau de données, qui soit souveraine. Nous, on souhaiterait qu'elle soit le plus open source possible. Mais je pense que la question à ce propos-là, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à se doter, outre le fait de récriminer effectivement et d'attaquer les GAFAM, ça me va. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on puisse construire à côté, en parallèle, ces solutions opérationnelles qui puissent répondre à ce type de problématique.
Oui, je pense que Pierre, je vais ensuite te donner la parole, ouais. Parce que vous avez une certification. Il y a des projets européens qui sont très intéressants et on va en parler. Juste avant, peut-être, je vais redonner la parole à Adrien pour évoquer une autre action et qu'on peut inviter nos auditeurs et auditrices à s'engager dedans. C'est donc une pétition pour obtenir une commission d'enquête. Et donc, on nous invite. Alors, tu peux nous en donner un mot en une minute, peut-être, pour inviter les personnes à participer, enfin, à faire cette action simple, en réalité.
Oui, voilà, c'est pour reprendre l'idée de Nathalie Goulet, qui est sénatrice. sénatrice et que tu as mentionné au début de l'émission, et qui en effet veut une commission d'enquête pour analyser les conditions de l'appel d'offres et pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres et le choix de Microsoft et des enjeux de Microsoft et de la donnée de santé un peu en général. Voilà, elle est sur le Sénat en ligne.
Oui, on mettra le lien. Voilà, il faut 10 000, donc il faut 10 000 signatures pour que ce soit étudié en conférence des présidents. 100 000, pardon, 100 000, oui.
C'est vraiment beaucoup. Donc diffusez, vous avez 6 mois, diffusez la pétition, signez et diffusez.
Voilà, c'est important. Parce qu'une commission d'enquête a des pouvoirs forts. On est obligé de s'y présenter lorsqu'on est convoqué.
C'est pour ça que c'est au Sénat.
On témoigne sous serment. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Et on invite nos auditeurs et auditrices à soutenir cette initiative.
Et ces actions, voilà, c'est en effet, c'est plus que Interop. En effet, il y a les industriels, il y a aussi des patients, des associations de patients, des médecins qui se sont engagés, donc des syndicats de médecins, Didier Sicard qui est connu aussi pour l'éthique. Enfin voilà, c'est vraiment un collectif large.
Oui, c'est bien c'est très important de le préciser. Et du coup, je vous propose d'avancer. Et Pierre-Yves, j'aimerais donc te donner la parole parce que Easter Eggs a une certification EDEN. Donc, tu pourras dérouler l'acronyme de European Health and Data Evidence Network. Et donc, il propose une approche, avec, il me semble, le logiciel libre et au centre, enfin, fait partie des critères, qui est basé, sur quelque chose, une mise en réseau. Est-ce que, tu peux nous expliquer quelle est cette certification, pourquoi vous avez fait le choix d'y recourir et nous parler de ce projet?
Alors, je rebondis juste deux secondes sur ce qu'avait dit Philippe avant. Sur la nécessité, quand on a un projet comme le S-Data Hub, d'avoir aussi une vision technique, parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, les politiques pensent que la technique, c'est un point de détail. Or, il faut savoir déjà ce qu'on a dans la boutique pour savoir avec quoi on va faire et comment on veut faire. Moi, quand j'ai entendu le roi Le Tourneau, c'était l'hiver dernier, qui présentait un roadmap, un document extraordinaire, hyper bien ficelé. À la fin de son intervention, elle dit « il nous manque encore notre directeur technique et le staff sera complet
».
On s'aperçoit, et là, pour moi, j'avais ma réponse. Ils n'avaient personne qui avait la vision technique.
Oui, on voit souvent que c'est un problème. C'est considéré comme une évidence, alors que non, ce n'est jamais une évidence. Et en fait, c'est des choix politiques, la technique aussi. Ouais.
Et je sais que nous, société hyper technique, souvent, on part plutôt de la technique et après, on regarde les possibles. Mais bon. Oui, alors pour revenir sur le projet EDEN, ça revient un petit peu aussi, et là on revient tout de suite évidemment à ce que disait aussi Adrien au début sur la capacité non pas de centraliser toute l'information, toutes les données des patients dans une base de données, une super base de données, mais justement faire en sorte que les hôpitaux puissent conserver les données chez eux et puissent après les partager en adoptant des standards. Le projet EDEN, c'est un projet qui est mené par l'Union européenne et derrière les Big Pharma, qui sont aussi à l'affût, parce que eux, ça les intéresse d'avoir accès à terme à ces données-là avec des standardisations et des outils qui permettront de faire tourner des algorithmes identiques partout. Mais bon, en contrepartie, les hôpitaux pourront vendre cet accès au labo, donc il y aurait des contreparties. Le projet EDEN, c'est l'émanation d'un organisme plus large mondial qui s'appelle l'OHDSI. Alors, l'OHDSI, c'est exactement... C'est un petit peu comme EDEN, OHDSI. À chaque fois,
je vais retrouver, on verra.
C'est l'Observational Health Data Science en informatique. Donc, c'est un projet qui vise justement à créer, à standardiser un format de base, ce qu'on appelle le format OMOP, et qui va permettre de faire en sorte que si toutes les bases de tous les hôpitaux du monde, tous les entrepôts de santé du monde ont ce même format et adoptent les mêmes standards, on va pouvoir lancer des recherches de Tokyo à Paris en passant par Rio avec le même algorithme et donc étendre ce qu'on appelle les cohortes, c'est-à-dire avoir des cohortes toujours plus importantes, donc un nombre de patients à mettre dans une étude toujours plus importante pour que l'étude soit plus efficace. Ce projet-là, il se trouve que c'est le projet OHDSI, c'est un projet qui est entièrement open source. Mais le choix du logiciel libre, open source, du logiciel d'utiliser une suite de logiciels open source dans le cadre du projet OHDSI n'est pas du tout un choix lié au à la notion de transparence, mais juste un choix lié à un côté pratique et le fait de pouvoir plus facilement déployer et plus rapidement déployer ces outils-là à un large niveau et en plus gratuitement. Donc, enfin, en tout cas, c'est comme ça que la position est défendue. Donc, ce ne sont pas des libristes chevillés au corps. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet Eden, ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, on est, sauf les partenaires, on va dire, comme nous qui travaillons et qui sommes des acteurs en lien avec les hôpitaux, au sein du consortium, on est dans un monde parfaitement Microsoft. Et donc, c'est assez intéressant de voir que il n'y a pas de il n'y a pas eu de choix de fait en fait. Ces gens-là avaient à un moment on leur a dit bah une base de données c'est SQL Server, bon bah ok. C'est-à-dire que ce sont des médecins qui à un moment ont besoin d'un outil, ils demandent un outil, on leur donne un outil, et puis ils se forment sur cet outil-là, et puis il n'y a pas de conscience forcément du choix de savoir si le logiciel est libre ou propriétaire, ils ont besoin d'un outil, ils ont besoin d'atteindre un but. Et en cela, c'est intéressant et ça peut poser des problèmes à un moment parce que, et là on peut parler aussi des standardisations et des normes qui sont visées, puisque de la même façon qu'on doit définir des normes communes, faut-il encore faire attention que ces normes soient elles-mêmes quelque part publiques et libres et ne soient pas des normes qui soient à terme possédées par des organismes ou en tout cas gouvernées par des consortiums privés.
Merci beaucoup pour ce... C'est tout très juste, ouais. Je vois le temps filer, excusez-moi, du coup je pense à plusieurs choses. Je vous propose, malheureusement, on va peut-être conclure, donc voilà, je vous laisse chacun un mot de la fin, soit sur ce qu'il faut retenir de l'émission, si vous voulez rebondir sur effectivement ce projet. Et on voit, ça m'évoquait l'importance d'un pragmatisme aussi dans l'éthique, et on voit que c'est ça finalement qui a poussé peut-être vers le logiciel libre, de ce que je retire de ce que tu nous as dit. Donc peut-être une minute chacun, voilà, s'il y a un mot qui vous...
Oui, bah, moi c'est la technique et politique et vraiment éminemment politique. Il faut vraiment y penser à chaque fois qu'un ingé fait une action. Il y a ça sous-entend de la politique. Le modèle OMOP, on le promeut aussi. On a eu des discussions déjà avec Hysterex sur ça, pour dire aussi les big pharma, c'est qui ? C'est en partie IQVIA, qui est le plus gros data broker de données de santé. Et le président de IQVIA, c'est l'ancien directeur de l'adresse qui a mis en place le Health Data Hub. Donc il y a aussi tout cet enjeu de pouvoir aussi très important. Et vous disiez, je crois que c'est Philippe, le choix, enfin que ça questionne les industriels dans leur réponse au Health Data Hub. Moi, je pense c'est pourquoi le Health Data Hub est parti dans cette direction aussi. Des alternatives décentralisées existaient. Si on veut faire de la recherche de qualité, il faut des alternatives décentralisées comme OMOP. Voilà. Donc et si on veut centraliser pour certaines études, mais sûrement pas toutes, mais sûrement parfois, on doit centraliser dans un lieu. Et ben il y a plein d'initiatives, Terra Lab, le CASD, les hôpitaux peuvent centraliser d'autres hôpitaux pour certains projets. Enfin, il y a un écosystème qui existe, qui doit être développé, et les industriels sont évidemment les bienvenus. On pourra pas, enfin voilà, voilà. Mais autour du libre. Voilà.
Super. Oui. Philippe Montargès.
Oui, je reprends ce que dit Adrien. C'est vrai que le sujet que ça pose, effectivement, ce que j'ai tout fait au début, c'est que si on reprend pas la maîtrise des infras, à la fois nous en termes de développement, si on maîtrise pas techniquement des infras avec de l'open source, et si on n'a pas une offre alternative conséquente, on pourra toujours que pleurer. Après, c'est logique de souveraineté. Donc moi, j'appelle les industriels qui travaillent dans le secteur à rejoindre l'initiative, à s'investir, par exemple, l'initiative de Gaia-X. Après, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins, au niveau européen, il y a une initiative qui vise effectivement à reprendre le contrôle de l'infrastructure de réseau de données, puisque c'est un projet autour de ça, qui associe à la fois des grands utilisateurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a un dataspace santé qui existe dans le cadre de Gaia-X. Et je pense que c'est important que les acteurs de l'open source, les acteurs industriels open source et du libre en France, s'investissent là-dedans pour effectivement imposer quelque part le libre dans la fabrication de ces futures infrastructures qui vont être, le socle de tous ces data spaces verticaux par de grands domaines. Et la santé en est un. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette logique-là.
L'appel est passé, ouais. Je me permets.
Les Américains, il faut aussi que nous, on soit capable de s'investir et de produire des choses qui tiennent la route. C'est un appel sans voilà.
Très bien, l'appel est passé. Pierre-Yves, hein, si tu peux être d'une efficacité redoutable dans ton dernier mot.
En une phrase, vu le thème, c'est pourquoi pas sensibiliser les médecins plus tôt dans leurs études à ces problématiques-là, puisque aujourd'hui, ils doivent se sentir concernés et je crois qu'ils arrivent désarmés quand ils sont confrontés au sujet très tard.
Très juste dit Isa, je suis d'accord, on en revient toujours à la question de l'éducation. Donc, un grand merci à vous trois pour ce sujet passionnant. Effectivement, c'était un peu ambitieux peut-être dans ce temps si court d'aborder tous ces points, mais c'était passionnant. Merci, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à bientôt, j'espère. Je vous propose une pause, nous allons faire une pause musicale. À nouveau, nous allons écouter Cyber SDF et cette fois-ci, nous allons écouter Accessible Love. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. écouter donc Accessible Love par Cyber SDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site april.org, une recommandation donc d'Éric Frodin d'auboutdufil.com. Vous écoutez toujours donc Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis toujours Étienne Gonu, chargé des affaires publiques pour l'April, et nous allons passer au sujet suivant. Alors, nous allons passer à notre dernier sujet. Il s'agit donc de la pituite de Luc. Donc, Luc doit être avec nous normalement.
Je suis là, Étienne, bonjour.
Bonjour, Luc. Alors, si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer aujourd'hui que digital rime avec médiéval.
Oui, alors déjà, j'aurais bien voulu venir. J'aurais bien voulu venir, c'est classique. Mais là, en fait, je suis encore en mode vacances. Alors, j'ai baroudé cet été autour du mont Lozère, au contact de la nature et sous le soleil. Et j'ai toujours une allure d'aventurier au teint tellement avantageuse que ça frise l'indécence. Et du coup, j'évite de sortir parce que ça fait déjà. Cet été, je me suis tout bonnement retiré de la civilisation. Alors, c'était extrême, il n'y avait pas de réseau partout. C'est le genre de vacances qui permet de se plonger dans l'ancien monde, que ce soit en visitant des châteaux ou en cheminant sur d'anciens béals qui croisent les ruines de moulins à châtaigne. Alors attention, je parle de l'ancien monde d'avant, pas du nouvel ancien monde d'avant le Covid, ni même du précédent nouvel ancien monde d'avant l'Internet, mais bel et bien du vieil ancien monde d'avant la modernité. À cette époque, les différences réglées à coups de masse dans le home, la vie était simple. On pouvait satisfaire son ambition en envahissant le royaume de son propre frère pour lui piquer son territoire et ses dieux. C'était une époque où on ne s'embêtait pas avec les faits. Dieu suffisait à expliquer toute chose et toute objection était cramée vive. La rumeur était la seule source d'information. Un illuminé affirmant avec assez de conviction qu'une apparition divine lui a soufflé un truc suffisait à déclencher une révolte, une guerre ou la construction d'un pont. Et puis je suis rentré et je me suis demandé si les choses avaient vraiment changé. Ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité n'est finalement pas bien différente. Il suffit d'être assez nombreux à y croire pour que ça devienne vrai. Inutile d'ailleurs que j'argumente plus là-dessus. Je suis à la radio, là, ça devrait suffire à atteindre la masse critique de véracité. Et puis, je me suis replongé dans l'actualité de l'été. J'ai découvert que le seigneur Apple avait banni Fortnite de son royaume parce qu'il refusait de payer le cens, la taxe médiévale que tout vassal doit à son suzerain. Puis Apple a lancé ses troupes à l'assaut de WordPress pour les faire cracher au bassinet également, mais a dû se replier finalement. Toujours en matière de taxes médiévales, Amazon applique, semble-t-il, les prémices, telles les ecclésiastiques d'autrefois. Comme eux, il leur est mis la main sur les premiers fruits de la récolte. Il est en effet accusé d'identifier les nouveaux produits à succès de start-up et de ses vendeurs tiers pour sortir des produits concurrents et les mettre en avant sur sa propre foire médiévale en ligne. Google a instauré la corvée de longue date en nous faisant cliquer sur les images pour passer l'identification. L'architecture centralisée des GAFAM sont leurs châteaux forts, qui doit être assez solide pour résister aux armes de siège de type DDoS et suffisamment sécurisé contre les espions s'infiltrant pour tenter de les assassiner en rendant public leurs dick pics et autres infos compromettantes. Les utilisateurs sont soumis à la DIM au travers de l'obsolescence programmée qui les force à racheter encore et toujours le même matériel. La pub en ligne assure le contrôle des âmes, comme l'Église catholique autrefois, et permet de toucher le bol. La propriété intellectuelle et les services DRMisés les maintiennent dans leurs conditions de serf. S'émanciper revient à partir sur les chemins de l'exil. Plus de contact avec ses proches, plus de photos, plus de musique, plus d'historique de conversation. Désormais, les titres de noblesse se reconnaissent au préfixe CI. CEO, CTO, CCO et j'en passe. Le minimum pour participer aux intrigues de cour, c'est d'être VP dans une boîte cotée en bourse. En dessous, il n'y a que des larbins ou des intrigants. Cela permet de pérorer lors de keynotes, d'exhiber sa grosse réussite et de convaincre tout le monde que ses revenus en essence sont légitimes. Les ménestrels et troubadours de la presse chantent leur louange. Steve Jobs était un génie doublé d'un bienfaiteur de l'humanité. Bill Gates est un philanthrope. Il faut baiser leurs pieds pour l'extrême charité dont ils font étalage quand ils tapent plus ou moins pour de vrai dans leur trésor de quelques milliards. Le logiciel libre n'est pas en reste. La fondation Mozilla vire un quart de ses salariés car le futur de ses revenus est incertain. Mais Mitchell Baker touche 2,5 millions de dollars par an. Dans le monde des nouveaux aristocrates, c'est une paille, dit-elle. Mais en Europe, Ton Rosenblatt n'a jamais eu ce genre de prétention. Il a pourtant emmené Blender vers les sommets. Baker ne peut pas en prétendre autant avec Firefox descendu à 4% de fidèles. Le marché a remplacé Dieu. C'est lui qui définit le mérite et la légitimité. En juin dernier, on a découvert les nouveaux supplices réservés aux gueux quand l'arbitraire des seigneurs leur tombe dessus. Trop critiques envers eBay, Ina Steiner et son mari ont été l'objet d'un harcèlement par des hauts cadres de l'entreprise. Faire livrer des cafards vivants, un fœtus et du sang de porc ou des livres sur comment survivre à la perte de son épouse remplacent les poussettes, brodequins et chevalets d'antan. Les galériens et forçats de notre époque sont les miséreux qui travaillent plus ou moins volontairement dans les usines de matériel informatique, les services clients, services de modération et autres trucs du genre effectués dans des pays où les gueux sont adéquatement évalués selon les critères médiévaux contemporains. Alors que les Américains constatent que leurs inégalités sont aujourd'hui supérieures à celles de la France de 1789 et où une guillotine a été symboliquement dressée devant la Maison Blanche, je repars pour ma part pour une année à tenter de faire avancer le libre avec mon bronzage et mes maigres moyens de gueux. Il y a peut-être à notre portée un nouveau monde d'après qui ne ressemblerait pas à l'ancien monde d'avant.
Merci Luc, hein, nous rappeler que c'est important aussi garder notre colère pour, comme énergie aussi pour agir. Bon, je ne désespère pas que tu puisses un jour nous rejoindre en studio.
Ça arrivera nécessairement.
Bon, je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci pour ta visite. À bientôt. Nous approchons donc à grands pas de la fin de l'émission. Je vous propose de faire quelques annonces. Tout d'abord, et j'allais l'oublier, peut-être vous donner la réponse du quiz que je vous proposais. Je n'ai oublié de le répéter pendant l'émission, mais bref, nous y sommes. Je vous demandais le nom de l'accord invalidé pendant l'été par la Cour de la justice européenne, initié suite à un recours de Max Schrems, ce qui a été évoqué pendant l'émission. Un accord entre les États-Unis et l'Union européenne qui concerne le traitement des données personnelles. Il s'agissait donc du Privacy Shield, auquel, comme je vous le disais, Noémie, décidément Berger, a consacré sa chronique lors du Libre à vous du 22 septembre. Une annonce, donc, le journal La Croix, l'Hebdo, dans son numéro du 26 septembre 2020, a réalisé un dossier intitulé « Numérique, le guide pour reprendre le contrôle », une lecture très intéressante. Une dizaine de pages qui passent en revue pas mal de choses très utiles, hein, conseils, outils libres, sites web, lectures. Donc pour le lectorat de La Croix, c'est un bon outil pour commencer à devenir un jardinier de sa vie en ligne, comme il est écrit dans l'introduction, avec aussi un encart à la fin « Comment nous l'avons fait ?» qui montre le sérieux du test et de la démarche, et aussi que c'est possible de le faire. On est plutôt fiers puisque le Libre à vous est cité dans les ressources pour aller plus loin. Donc une lecture disponible en version papier et en version numérique pour la somme de 2,99€. Vous retrouverez les références sur april.org. Jeudi 1er octobre, le groupe Sensibilisation de l'April continuera de se réunir à distance à partir de 17h15. C'est ouvert à tous et à toutes, donc n'hésitez surtout pas à retrouver les détails pratiques sur la page dédiée sur l'émission ou dans l'agenda du libre.org. Vous trouverez d'autres événements sur cet agenda du libre.org, d'autres événements libristes. Nous touchons donc à la fin de l'émission. Notre émission se termine donc. Je remercie les personnes qui ont participé. Je pense à Vincent Callam, Adrien Parot, Pierre-Yves Dillard, Philippe Montargès et bien sûr l'incroyable Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, ma collègue Isabella. Merci également à Sylvain Kotzmann, Antoine, Samuel, Laurent, Olivier, Humbert, Élodie, Daniel Giraudon, bénévole à April, qui étoffe donc notre équipe podcast. Merci à Olivier Gricot, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Et enfin, merci bien sûr à Frédéric Couchet, le principal artisan de cette superbe émission. Vous trouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez surtout pas à nous faire tout retour utile pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Toutes les remarques et questions sont les bienvenues à libreavous@april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. La prochaine émission aura lieu le 6 octobre 2020 à 15h30. Nous offrons une émission spéciale musique libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 6 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien. 21.